On va disposer nos cœurs, bien sûr, à recevoir tout ce que Dieu veut nous donner encore en ce matin. On va laisser le Saint-Esprit nous parler encore ce matin. Et pour ce faire, et en introduction à ce que je voudrais partager de la part de Dieu, je vous encourage à prendre avec moi 2 Timothée chapitre 2 et le verset 19. 2 Timothée chapitre 2 et le verset 19. Nous lisons ensemble. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, qu'il s'éloigne de l'injustice, qu'il s'éloigne du péché. Autrement dit, ce verset est en train de nous dire que celui qui déclare appartenir à Dieu, alors qu'il se détourne du mal. Pourquoi ? Parce que le Seigneur, qui est merveilleux, celui qui a accepté même de mourir sur ce bois de la croix, celui qui est plein d'amour, qui est plein de bonté, qui est miséricordieux, nous savons également qu'il est un Dieu saint, un Dieu trois fois saint. Vous savez, quand on parle de sainteté, la sainteté fait mention de la nature morale et même intrinsèque de Dieu. Dieu est profondément saint. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, Dieu a chargé Moïse de pouvoir dire à l'époque au peuple hébreu les paroles suivantes. C'est donc un deuxième verset que je vous propose de lire avec moi, Lévitique chapitre 19 et le verset 2. Tout cela, c'est encore une introduction, nous ne sommes pas encore entrés dans le thème de ce que je voudrais partager ce matin avec vous. « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Et la sainteté, eh bien, de Dieu, celle, eh bien, auquel nous sommes appelés, nous enfants de Dieu, nous invite les uns et les autres à vivre, à connaître certaines abstinences que je vous propose de regarder ensemble. S'il y avait un thème à donner à ce message ce matin, c'est ni plus ni moins les abstinences de l'enfant de Dieu. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu ce matin? Qui est enfant de Dieu ce matin? On peut être créature, nous sommes tous les créatures de Dieu. Mais un jour, en passant par la repentance, la conversion, nous sommes devenus enfants de Dieu. Car on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient, nous rappelle Jean chapitre 1 et le verset 12. Quand on parle d'abstinence, et quand on regarde un dictionnaire, l'abstinence c'est quoi? C'est le fait de se priver de certaines choses. Jusqu'ici tout va bien. L'abstinence, c'est un renoncement volontaire et durable à la satisfaction, d'un appétit ou d'une envie. Or, quand on regarde autour de nous, je me dis, ma foi, des abstinences, il y en a passablement. Il y en a à foison, il y en a à profusion. Je vous donne quelques exemples. Des abstinences à cause de problèmes de santé. Quelqu'un, par exemple, peut-être même dans cet auditoire, qui aurait fortement le diabète, il va s'abstenir de quoi? Allez, aidez-moi. De sucre, évidemment. D'autres vont s'abstenir de boire de l'alcool. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils en ont été addicts et ils n'osent plus toucher, eh bien, à l'alcool. Dans un autre domaine, eh bien, certains pratiquent l'abstinence au niveau, eh bien, de leur corps. Pourquoi? Parce que ce sont des athlètes de haut niveau et ils s'abstiennent de certaines nourritures qui pourraient peut-être avilir leur corps athlète, leur corps athlétique. D'ailleurs, même l'apôtre Paul en fait mention dans 1 Corinthiens chapitre 9 et le verset 25 pour faire passer son message. Il va faire référence à tous ceux qui combattent et qui s'imposent toute espèce d'abstinence. Et il précise, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. D'autres exemples, il y en a au niveau, eh bien, toujours des abstinences pour des motifs personnels. Si je vous parle des végétariens, est-ce qu'ils ne font pas des abstinences, eux? Et je ne parle pas des végétaliens, Et allons plus loin, ou de ceux qu'on appelle les véganes. Eh oui, on ne va pas entrer dans tout ça. Mais même dans la Bible, on voit à un moment donné, alors un cas qui est quand même insolite. Regardez avec moi Actes chapitre 23 et le verset 12. Il nous est dit, quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Waouh ! Ça, c'est vraiment un exemple quelque peu singulier. Bon, en tout cas, ça nous montre que, en tout cas, le mal peut ne pas avoir de limite, arriver à s'abstenir de manger, de boire, jusqu'à ce qu'on arrive à ses fins, entre autres, de commettre un homicide. Pour la petite histoire, l'apôtre Paul a échappé à cet homicide. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a devenu de ces Juifs qui ont juré de s'abstenir de manger. D'autres pratiques d'abstinence, on les retrouve dans le domaine religieux. Nos amis les Juifs, par exemple, s'abstiennent de manger donc du porc, et pour cause, dans la loi, dans la Torah, donc de l'ancienne alliance, il est fait mention de s'abstenir de certains animaux considérés comme impurs. D'ailleurs, aussi nos amis musulmans font de même. Quand nous pratiquons le jeûne, est-ce que vous aimez jeûner ? Quelle question, Joël. Est-ce que ce n'est pas une forme d'abstinence, mais une abstinence momentanée ? Voilà, sur plusieurs jours, on s'abstient de manger, de boire. Certains même vivent le jeûne qu'on appelle le jeûne d'Esther, 3 jours sans manger, sans boire. C'est une abstinence aussi. Alors la question pour nous ce matin, et pour nous enfants de Dieu, est-ce que aussi nous sommes invités ou appelés à pouvoir observer des abstinences ? Je vous pose la question. Est-ce que nous aussi, nous sommes amenés à vivre des abstinences dans notre vie, dans notre marche chrétienne ? Oui. Et nous découvrons au travers de la Bible plusieurs abstinences que le Seigneur nous invite à pouvoir vivre. Alors non pas d'une manière contraignante, il ne faut pas que ça soit un joug, mais au contraire, je pense que ces abstinences doivent être, écoutez bien, l'expression de notre amour pour Dieu. Ça doit être aussi, j'ai envie de dire, le résultat d'une véritable conversion. Parce que nous aimons Dieu, parce que nous savons qui il est, alors avec joie, avec sa force, sa grâce, nous acceptons ces différentes abstinences. Et je vous propose donc ce matin de voir juste 2 abstinences que le Seigneur nous invite à pouvoir observer dans nos vies. Est-ce que vous voulez les connaître ? Oui, je suis poli, hein ? Est-ce que vous voulez les connaître ? On va les découvrir. La première abstinence, c'est celle qui consiste à s'abstenir justement de querelles ou de disputes. Proverbes chapitre 20 et le verset 3 nous dit la chose suivante. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir, on est dans le thème, oui ou non, on est dans le thème, de s'abstenir des querelles. Mais tout insensé se livre à l'emportement. J'ai pour vous une autre version, celle, me semble-t-il, de Parole de vie, qui exprime ce verset 3 de la manière suivante. C'est un honneur pour quelqu'un de refuser les disputes, mais les gens stupides se mettent en colère. Et je remarque avec vous que c'est souvent l'orgueil, mes amis, qui est l'agent déclencheur des querelles, des disputes et de toute forme d'altercation. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Et j'en ai pour preuve d'ailleurs ce que dit même la Bible, toujours dans le livre des Proverbes, c'est, vous le savez, en majeure partie, Salomon, qui, l'homme le plus sage au monde, qui a écrit ces Proverbes. Proverbes chapitre 13 et le verset 10 nous dit, Proverbes chapitre 13, verset 10, « C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. » Une personne qui veut coûte que coûte avoir le dernier mot. Une personne qui veut coûte que coûte avoir raison. N'est-ce pas là quelque part une forme d'orgueil ? Jamais elle ne lâche, jamais non, elle veut avoir toujours le dernier mot. Et n'est-ce pas là une forme d'orgueil qui, manifestement, va par la suite, au final, enclencher ou engendrer des querelles ou des disputes ? La Bible dénonce les querelles comme faisant partie intégrante des œuvres de la chair. C'est le temps qui nous manquerait pour relire Galates 5, verset 19, qui désigne certaines choses qui sont comme eh bien, des œuvres de la chair, qui nous conduisent immanquablement eh bien, loin de Dieu. Œuvres de la chair qu'il faut opposer aux fruits de l'esprit, qu'on retrouve quelques versets plus bas, Galates 5, verset 22, qui nous rappelle que, au contraire, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la bienveillance, la douceur, et aussi la maîtrise de soi, la fidélité aussi également. Toutes ces choses, c'est à nous eh bien, de pouvoir, au contraire, les développer. Mais en tout cas, pour nous chrétiens, nés de nouveau, nous devons renoncer à toute forme de querelle et à toute forme de dispute. Frères et sœurs, nous devrions faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter de nous retrouver au sein d'une querelle. Amen ou pas amen ? Et je voudrais vous donner un exemple. Et quel exemple ? On le retrouve dans l'Ancien Testament. C'est l'exemple de notre ami Abraham, qui à l'époque encore s'appelait Abraham. Et Abraham, à un moment donné, est parti avec son neveu Lot vers le pays que Dieu l'avait indiqué. Et puis, il s'est passé quelque chose en cours de route. Genèse, chapitre 13, les versets 5 à 9. On va lire ce passage merveilleux qui doit nous inspirer ce matin. Genèse, chapitre 13, verset 5 jusqu'au verset 9. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Verset 7, il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, ça c'est merveilleux, excusez-moi, je mets un point d'orgue. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Et tout le pays n'est-il pas devant toi ? Sépare-toi donc de moi. Et alors, eh bien, si tu vas à gauche, eh bien, écoute, je me propose, moi, d'aller à droite. Et si tu veux aller à droite, eh bien, moi, j'irai à gauche. Je suis émerveillé de cet homme. Je suis émerveillé de ses paroles. Et je voudrais prier Dieu ce matin que nous soyons potentiellement de cette trempe d'Abraham, celui qui a été appelé l'ami de Dieu. Cet homme qui, à un moment donné, avec ses paroles, cet argument qui est extraordinaire, a su quelque part désamorcer eh bien, ce qui allait eh bien, être un désastre au sein même de sa famille. Il a été, on peut le dire, à ce moment-là, un artisan de paix. Et nous avons besoin d'être potentiellement des artisans de paix. Des artisans de paix déjà dans notre famille. Des artisans de paix au sein même de notre travail. Comment on nous connaît au sein de notre travail ? Allez, des artisans de paix au sein de notre quartier. Quelquefois, on peut coller à bien des petits poissons derrière la voiture ou sous la porte de la maison. Mais comment les gens nous connaissent ? Est-ce qu'ils nous connaissent comme des personnes querelleuses ? Ou est-ce qu'elles nous connaissent comme des artisans de paix ? Nous sommes tous frères et sœurs. Et nous aussi, nous formons une grande famille. Et l'argument qu'a apporté Abraham, nous pouvons aussi nous l'appliquer au sein même de notre église locale. Et Dieu désire que nous soyons, eh bien, alléluia, en paix les uns et les autres. Et que nous puissions vivre en harmonie, n'est-ce pas la volonté du Seigneur ? Vous savez, quand il a, avant d'être livré, Jésus a formulé une prière qu'on appelle la prière sacerdotale. Et au cœur même de cette prière, qu'est-ce que nous retrouvons ? Le désir profond du Seigneur Jésus, priant à son Père, va dire, Seigneur, qu'il soit un comme nous sommes un. L'unité que Dieu a créée parmi nous, elle est précieuse. Et je peux longtemps comme cela parler en langue, mais si je ne suis pas en paix avec mon frère, avec ma sœur, si je suis en querelle, si je suis en dispute, mais comment puis-je apporter un sacrifice qui soit agréable aux yeux de Dieu ? Nous le comprenons très bien. Frères et sœurs, abstenons-nous de toute forme de querelle qui pourrait détruire l'unité de l'esprit qui doit régner entre nous et parmi nous. Et Paul, quelque part, au travers de l'une de ses épîtres, c'est l'épître aux Éphésiens, nous donne quelques solutions. Éphésiens, chapitre 4, les versets 1 et 3. Il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, autrement dit avec amour. Verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Regardez le contexte, hein, il est en prison. Mais malgré eh bien, sa situation, il a ce souci eh bien, de retrouver dans les différentes églises locales eh bien, cette paix qui doit régner et qui ne peut que faire plaisir au cœur même de Dieu. Et là, eh bien, notre ami Paul nous donne quelques pistes. Il nous invite à manifester de la douceur, ou de l'humilité, c'est pareil, de la patience, manifester de l'amour, manifester eh bien, de la paix et tout ça. Eh bien, finalement, on retrouve encore eh bien, quelques fruits, les fruits de l'esprit. Et il dit au verset 3, Éphésiens 4, verset 3, que nous avons lu, « Vous efforçant ». Il y a un effort à faire. Je vais m'efforcer eh bien, de ne pas entrer dans une querelle, une dispute. Mais tout comme eh bien, Abraham, je veux avoir cet état d'esprit, cette paix, on l'a lu, on l'a chanté tout à l'heure. Je vous laisse, je vous donne ma paix. Mais quand on reçoit la paix de Dieu, on la retransmet, on transpire cette paix. Et partout où nous allons, nous apportons la paix et nous apportons rien d'autre. Amen ou pas amen, frères et sœurs, dites-moi. Hein. Il est donc de notre responsabilité de tout faire pour conserver l'unité de l'esprit, en ayant avec nos frères et nos sœurs, dans la foi, des rapports de paix et d'amour. Amen. C'est ce que nous vivons, ce que nous devons vivre. Et si d'aventure il y avait quelque incompréhension, des querelles ou des disputes, réglons la chose de suite. Ne laissons pas l'ennemi venir s'infiltrer et se glisser, mais resserrons les rangs, soyons pleins d'amour. La Bible dit, et c'est Jésus qui parle, il dit à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns et les autres. Et l'amour, alléluia, nous permet à bien de maintenir cette unité, quitte à même perdre certaines choses. Parce qu'avec le Seigneur, on ne perd jamais. Hein. Et tout ce que nous perdons pour le Seigneur, pour même conserver l'unité, Dieu saura nous le rendre, écoutez-moi bien, au centuple. Voilà donc une première abstinence, on l'a lu. C'est une gloire pour l'homme, pour la femme, de s'abstenir des querelles et d'être en paix avec tous. Voulez-vous connaître la deuxième abstinence ? Je ne serai pas long ce matin. Voilà, il faut au moins une deuxième. Dieu, notre Père céleste, désire aussi que nous nous abstenions de l'impudicité. Waouh ! Là, il y a un silence. On pourrait entendre la mouche qui vole. Même la mouche est posée haut. Notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Autrement dit, une habitation. Ça nous dépasse, on le comprend plus ou moins, mais c'est extraordinaire. Le jour où je donne mon cœur au Seigneur, il y a un miracle qui se produit, je deviens une nouvelle créature, et Dieu lui-même vient habiter, la Trinité même vient habiter, l'Esprit de Dieu vient habiter ma vie, et je deviens une habitation sainte. Je deviens le corps, le temple, alléluia, l'habitation du Saint-Esprit, et cette habitation doit être pure, consacrée, mise à part pour Dieu. Nous ne sommes plus appelés à nous vautrer eh bien, dans ce monde, dans les souillures de ce monde. Et c'est ce que rappelle l'apôtre Paul au travers de cette autre épître, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 5. Ce que nous partageons ce matin, c'est une réponse à ce que tu demandais au Seigneur. Comment faire pour avancer ? Et c'est avec une grande tendresse, avec un grand amour, que Dieu te donne les solutions ce matin. Ce que Dieu veut, autrement dit, ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez. On retrouve notre thème. Nous sommes, alléluia, dans notre thème, ce que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Et enfin le verset 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Le mot impudicité est la traduction du mot grec « pornéa ». et qui veut dire impudicité, qui a été traduit en français bien par le mot impudicité, mais aussi qui peut se traduire par d'autres mots comme infidélité, mais également comme prostitution. C'est fort quand même. Et l'impudicité, elle désigne toutes les relations sexuelles illicites dénoncées ou dans la Bible. Frères et sœurs, je ne peux pas prendre d'autres livres que la parole. Ce n'est pas la parole de Joël, ce n'est pas la parole d'un pasteur quelconque, c'est la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu que Dieu a donnée à tout le genre humain. C'est la même Bible. Il peut avoir plusieurs versions, mais le sens reste le même. Et c'est ça qui est important. Et la Bible dénonce des relations sexuelles qui sont illicites. Faut-il en citer ? L'adultère, la fornication, c'est-à-dire les relations sexuelles en dehors du mariage, les relations sexuelles avec une personne du même sexe, l'inceste, les relations sexuelles avec des animaux. Est-ce que vous croyez que ça existe ? Oui, la zoophilie. Et je vais même plus loin. Certains vont même chercher des relations sexuelles avec la nature. Mais on va s'en arrêter là. Parce qu'il y a toutes sortes de choses qui sont contre nature et que Dieu condamne. Parlant de l'impudicité, on peut commettre l'impudicité soit par nos actions, par nos paroles, en jurant. Il y a des choses malsaines. Vous savez, il y a eu des moments où dans des délivrances, les démons qui parlaient au travers du démoniaque commençaient à donner des choses qui sont sales à entendre. C'est la preuve que ça vient du diable. Donc on peut aussi manifester ou pratiquer l'impudicité par nos paroles, mais aussi par nos cinq sens finalement. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Si on parle ne serait-ce que les yeux, par les yeux, on peut se souiller au travers d'images, au travers de vidéos, au travers des réseaux sociaux, oui ou non. D'ailleurs, pour la petite histoire, ce même mot, pornéo, pornéa, a donné quel mot en français ? Pornographie. L'impudicité est chose courante parmi les inconvertis, ça c'est indéniable. Mais soyons honnêtes, l'impudicité peut aussi se retrouver parmi les chrétiens. Et Paul lui-même, d'ailleurs, a dû régler, vous le savez, un problème de mœurs au sein de l'église de Corinthe. Alors, on va le lire ensemble. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens, autrement dit chez les inconvertis. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Là, nous avons un cas d'inceste, mais dans une église locale. Et quelle église locale ? C'était l'église de Corinthe, où il y avait les 9 dons spirituels qui étaient exercés. Vous savez, dans une même église, on peut trouver le bon grain et l'ivraie qui se côtoient. Et on se rend compte que ce problème n'avait pas été réglé. Vous savez, il y a des choses qui sont là, en latence, on a entendu dire, mais on n'ose pas toucher, on n'ose pas régler, on n'ose pas mettre la main les pieds dans le plat, pour régler telle situation. Mais il y a des affaires comme ça qui sentent mauvais, et le Saint-Esprit est attristé. Et on se rend compte pour l'église de Corinthe que Paul a dû revenir à la charge et reparler encore de cette affaire. Dans sa deuxième épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 21. Pour la petite histoire, les commentateurs de la Bible pensent qu'il y a eu même, au final, entre les deux courriers, les deux épîtres, une deuxième lettre qui s'est égarée, qui s'est perdue. Mais je veux surtout souligner que, à plusieurs reprises, Paul a dû revenir sur cette affaire qui n'était pas réglée. « Je crains qu'à mon arrivée, va-t-il dire, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. » Et voyez au travers de ce courrier, non pas un doigt accusateur, non pas de la part de l'apôtre Paul, quelque chose pour écraser, non. Voyez la compassion de Dieu. Dieu use de miséricorde. Dieu use de compassion à l'égard de ses enfants, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais au contraire que nous soyons fin prêts, parce que Jésus-Christ est à la porte et il revient bientôt. Frères et sœurs, l'impudicité, je vous le dis, est une arme redoutable que le diable utilise juste pour paralyser notre vie chrétienne. L'impudicité sous toutes nos formes. sous toutes ses formes, est capable de paralyser, de bloquer l'action du chrétien. Juste quelques exemples. Prenons l'exemple de Samson. Samson qui était destiné à vivre des choses extraordinaires puisqu'il était désigné par Dieu comme juge sur le peuple d'Israël. Mais à cause de son impudicité, ce même homme, ce héros, on peut le dire, fut non seulement aveuglé, puisqu'on lui a crevé les yeux, il fut lié et même réduit à l'esclavage. Prenons notre cas, et pas des moindres, même le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, s'est laissé piéger par l'impudicité. Il y a un moment donné, eh bien, a connu ce que vous savez, l'adultère avec cette fameuse Bathsheba. Mais bien sûr, gloire à Dieu, il y a le psaume 51 où cet homme eh bien, s'est repenti. Mais à cause de ce péché de l'impudicité, il en a souffert longtemps, lui et sa famille. Alors la solution ce matin, face à cette deuxième abstinence, que faire face à l'impudicité? J'ai envie de dire, plus que s'en abstenir, l'impudicité, il faut la fuir. Vous êtes d'accord avec moi? Un peu comme, vous connaissez cet exemple, notre ami Joseph, qui à un moment donné s'est retrouvé dans une situation un peu délicate, puisqu'il s'est retrouvé face à la femme de son maître qui s'appelait Potiphar, et cette dernière lui faisait des avances. Mais lui n'a pas essayé de dire « Ah, je vais résister, je vais machin ». La Bible nous dit qu'il a même laissé son manteau, il est parti en courant. Et ça, c'est une forme de courage. Prendre eh bien, ses jambes ou ses pieds à son cou pour extrapoler et fuir face à l'impudicité, c'est la meilleure chose à faire. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 et 19 nous le rappelle. Paul qui dit « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Et là, il rappelle ce que j'ai dit en introduction tout à l'heure. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et les questions au verset 20, au verset suivant, de pouvoir toujours glorifier Dieu au travers de notre corps, que Dieu soit béni. Autre part, c'est le temps qui nous manquerait, je ne sais pas si tu as le temps de l'exposer, c'est Galates chapitre 5, verset 16, l'apôtre Paul qui nous donne aussi notre piste, comment faire face à l'impudicité, comment eh bien, résister à ce terrible adversaire. La Bible nous dit, Galates chapitre 5, verset 16, de marcher par l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Je dis donc, marchez selon l'esprit et alors vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà aussi, eh bien, une autre astuce, mais plus qu'une astuce, voilà une réponse que Dieu nous donne. En marchant selon l'Esprit, Seigneur, je veux me laisser conduire par toi et tourner le dos eh bien, vers cette chair qui me sollicite. Mieux encore, je veux crucifier cette chair afin qu'elle ne vienne pas eh bien, incessamment m'attirer vers ces choses qui ne peuvent que t'attrister. Frères et sœurs, ce matin, ce qu'on parle est quand même délicat. Mais je ne serai pas serviteur de Dieu si je ne communique pas ce que Dieu me dit de dire. Et je voudrais dire à quelqu'un qui, si à un moment donné, tu as été piégé, tu as été victime de cet adversaire, et pas des moindres, l'impudicité, je voudrais te rappeler que notre Père Céleste qui est là présent ici en ces lieux, il ne t'accuse pas. Lui qui est plein de compassion, plein de miséricorde, et on a eu raison de chanter la croix ce matin. Parce qu'à la croix, Jésus a pris toutes nos infirmités, certes, il a pris toutes nos douleurs, mais il a pris aussi tous nos péchés, tout ce qui peut-être ne peut pas être nommé ici, en public. Il l'a pris sur le bois de la croix. Et cette croix, elle est là pour nous rappeler que nous avons une possibilité d'être restaurés, d'être pardonnés, d'être rétablis, d'être relevés de n'importe quelle situation. Ne laissez pas, surtout pas, l'ennemi venir vous culpabiliser et vous arrêter dans votre marche. Mais venez plus qu'à la croix, venez plus que devant le tombeau qui d'ailleurs est vide, venez devant le trône de la grâce et trouvez secours en Jésus. Car il libère, La Bible dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il fait tomber les chaînes. Il est capable de nous pardonner. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il n'y a pas un seul péché que Dieu, eh bien, ne soit pas capable de pouvoir purifier et laver. Oui, si nous revenons vers lui, vers Dieu, avec un cœur repentant et désireux d'abandonner notre péché, alors Dieu, immanquablement, nous pardonnera et nous aidera par sa grâce à reprendre, alléluia, notre marche avec lui jusqu'à ce prochain retour. Amen, frères et sœurs. Alors on veut conclure, et là, le mot de conclusion, c'est l'apôtre Paul qui va nous le donner dans 2 Timothée, chapitre 2, et le verset 21. On avait lu le verset 19 en introduction, deux versets plus bas, pour conclure. Si donc quelqu'une se conserve pur en s'abstenant de ces choses, entre autres les deux abstinences auxquelles j'ai fait mention ce matin, Dieu dit, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et je crois que ce matin, si nous sommes là ce matin, c'est parce que eh bien, nous désirons être ces vases d'honneur, sanctifiés, utiles à notre maître. D'où la nécessité pour nous eh bien, de pouvoir répondre favorablement à ce que Dieu nous a dit ce matin. Seigneur, aide-moi à vivre ces abstinences. Et je veux le faire avec joie pour être fin prêt, parce que tu es à la porte et tu viendras chercher cette église qui sera sans rides, sans tache, sans souillure. Que Dieu soit béni, que Dieu, frères et sœurs, nous aide à comprendre ces choses. Baissons nos têtes quelques instants et laissons encore le Saint-Esprit nous parler par rapport à ce qu'on vient de lire. Merci pour ta parole. Nous voudrions non seulement la recevoir avec douceur, mais aussi être assez diligent pour la mettre en pratique. Et pour cela, Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Tu as dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous écoutez. Quelquefois cette parole, elle nous dérange. Quelquefois cette parole, elle nous bouscule. Mais c'est toujours pour notre bien. Tu as dit toi-même, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je te prie, cher Saint-Esprit, de passer dans les rangs et de venir continuer encore à nous sanctifier. Tu l'as dit toi-même, que celui qui se sanctifie encore. Et chaque fois que nous nous rassemblons, nous voulons laisser cette parole nous sanctifier, nous travailler de l'intérieur. Seigneur, fais grâce encore en ce matin. Alors qu'on a les têtes baissées, les yeux fermés, c'est tellement important. Peut-être quelqu'un s'est reconnu ou s'est retrouvé au travers, ne serait-ce que ces deux points. Vous avez compris que la liste n'est pas exhaustive et peut-être qu'on aura l'occasion de la continuer. Mais déjà sur ces deux points, peut-être que tu t'es reconnu, retrouvé. Sache que Dieu ne t'accuse pas ce matin, mais dans son immense bonté, veut t'aider à poser un geste et te permettre de te laisser découvrir par le Seigneur, te permettre eh bien, de te laisser travailler par le Seigneur ce matin. Et si eh bien, tu te reconnais au travers de ce qui a été dit, juste lève ta main et rebaisse-la tranquillement. Oui, tu peux rebaisser. Tu peux rebaisser ta main. C'est entre toi et Dieu. Oui, tu peux rebaisser ta main. S'il vous plaît, ne regardez pas. C'est tellement important. Oui, tu peux baisser ta main. Y a-t-il d'autres personnes ? Oui, tu peux rebaisser ta main. Et je voudrais prier avec ces personnes. Oui, tu peux baisser ta main. Le Seigneur, il le voit. Le Seigneur, il le voit, il le sait. Et je voudrais eh bien te dire que le Seigneur qui a vu cette main levée comme un geste de foi, il a vu eh bien que vous dites, « Oh Seigneur, ce matin, Seigneur, je veux changer. » Seigneur, je veux apprendre à m'abstenir de ces choses. Seigneur, je veux être meilleur. Je veux te ressembler, être vrai. Seigneur, je veux marcher de sainteté en sainteté. Seigneur, aide-moi. Et je peux vous dire que vous allez ressortir de ce culte transformé. Parce que Dieu va vous prendre au mot. Dieu va vous faire grâce. Dieu, en cet instant, vient et purifie votre cœur à l'instant même. Car si nous confessons nos péchés, nos erreurs, nos manquements, Dieu nous fait grâce et nous aide à aller de l'avant. Seigneur, je te prie pour toutes ces mains qui se sont levées, chrétiens ou pas. Seigneur, Père, ce que tu regardes, c'est la sincérité du cœur, c'est la foi qui est mise à valoir. Et tu honores tes promesses. Et tu viens en cet instant non seulement pardonner, Seigneur Père, mes amis, mais aussi, Seigneur Père, leur donner, Seigneur Père, tous les outils pour pouvoir, Seigneur Père, trouver, Seigneur Père, victoire face à toute forme d'adversité, face à tous, Seigneur, ces ennemis qui viennent, Seigneur, nous embêter et nous empêcher d'être fin prêt pour ton retour. Seigneur, sanctifie, Seigneur, purifie, Seigneur, donne-nous être meilleurs. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Fais grâce, Seigneur, tu pars dans les rangs, tu les connais, et même avant qu'ils lèvent le doigt, car tu connaissais déjà d'avance leur intention, leur sincérité. Seigneur, tu es déjà intervenu au nom de Jésus et tu aides certaines personnes, Seigneur, à revoir copie, à abandonner toute forme de péché. Seigneur, Père, qu'ils puissent être dégagés des pièges de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Père, pour la seule gloire de ton nom, je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Que Dieu soit béni.